RFM,
Radio Futur Média,
94 FM,
Dakar.
Mesdames et messieurs, merci et bienvenue. L'Alliance pour l'électrification rurale et Konrad Adenauer Stiftung sont ces deux structures qui vous proposent donc cette émission. En effet, ces deux structures ont entrepris une étude en 2023. C'est pour approfondir la création d'emplois grâce à des solutions d'énergie renouvelable décentralisées dénommées R&D. Une étude consacrée au Sénégal mais également au Ghana où 9 900 000 personnes n'ont pas accès à l'électricité. Pour ce qui concerne le cas spécifique du Sénégal, 5 400 000 personnes vivent sans accès à l'électricité. La majorité des personnes sans accès vivent dans les zones rurales où les R&D offrent pourtant la voie d'électrification la plus rentable et une création d'emplois verts. Merci et bienvenue dans votre émission qui va poser donc le débat et proposer des solutions. Pour en parler, on est avec Abdoulaye Ba. Il est le vice-président de COPERES, le conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal. Il est également expert senior en énergie. Bonjour Monsieur Ba.
Bonjour.
Nous sommes également avec Monsieur Abdou Diop, membre de l'Alliance pour l'électrification rurale. Bonjour Monsieur Diop.
Bonjour Monsieur Diagne.
Alors, une première question déjà. En Afrique de l'Ouest, le problème d'accès à l'énergie dans les zones rurales a toujours été d'actualité. Qu'est-ce qui fait que les zones rurales ont moins accès à l'énergie et pourtant, il y a énormément de possibilités?
Merci Moussa Diagne. Tout d'abord, nous vous remercions par rapport à cette initiative et remercions l'ensemble des acteurs qui ont eu à penser à cette idée de voir l'opportunité des emplois créés dans le secteur des énergies renouvelables qui est un peu le futur de l'énergie de façon globale. Les derniers retours de la COP 2023 nous montrent que les trajectoires de la transition énergétique font focus sur l'accès à solutions décentralisées d'électrification. Donc, pour vous dire qu'en termes de problématique, l'accès aux services énergétiques constitue un défi majeur pour les populations dans les milieux ruraux. Parce que c'est des zones qui sont très éloignées du réseau électrique où les investissements pour amener le réseau dans ces zones n'est pas au rendez-vous. Les pays manquent de moyens, donc il y a lieu vraiment de réfléchir sur l'innovation de la technologie, voir quelles sont les technologies qui sont appropriées suivant ces localités pour vraiment satisfaire la demande en énergie, que ce soit pour l'éclairage, que ce soit les énergies de cuisson, mais aussi pour l'usage productif à l'énergie qui permet un changement de paradigme et un développement local au niveau de ces communautés.
Alors, en quelque sorte, une démocratisation, disons, de l'énergie, en quelque sorte, c'est ce que vous prenez?
Globalement, voilà, ça dit l'équité dans l'accès.
Très bien.
Parce qu'on sait que les zones urbaines sont entre guillemets priorisées par rapport aux politiques d'investissement énergétique. Tous les investissements vont aller sur le réseau. Ce serait pertinent de penser ces zones qui sont à plus de 15 km du réseau national, comment satisfaire la demande en énergie dans ces zones.
Voilà, très bien, Monsieur Diop. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Ba. Des solutions ne cessent en tout cas d'être proposées par des acteurs, chercheurs dans le domaine. Mais à votre avis, quels sont aujourd'hui les enjeux réels de l'alimentation en énergie au niveau justement de ces zones rurales?
Oui, bonjour, merci donc de l'invitation. Je salue mon collègue Abdou Diop au passage. Donc moi, je vais un peu avancer dans la lancée de Monsieur Diop. Cependant, j'ai quelque chose à souligner.
Tout à fait, allez-y.
Le rappel au Sénégal, dans le cadre de l'éducation rurale, le programme, donc, le Sénégal a été divisé en concession d'éducation rurale qui doit être octroyée à un opérateur. Et le Sénégal a été divisé en 10 concessions d'éducation rurale. Donc, les deux premiers au niveau de Louga et Linguère sont attribués à des sociétés commerciales, qui est une filiale marocaine. Et puis, nous avons au niveau de Kolda, Wellingara également, donc ERA. ERA, c'est également entité EDF. Au niveau de Mbour, nous avons donc également les Tunisiens, STEC. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est que certes, l'État n'a pas les moyens, comme l'a dit Abdou, mais également, il y a une petite faille que l'État a fait dans le cadre de la planification des énergies renouvelables. J'aurais dit, si j'étais moi décideur politique, donc, de permettre à ces opérateurs authentiques de faire le travail qui, la plupart du temps jusqu'à nos jours, ne font que l'extension du réseau. C'est-à-dire, ils achètent le courant de la Sénélec, ils distribuent à des villages qui sont à plus ou moins 10 km du réseau. Donc, les pays qui sont à hinterland ne sont pas trop pris en considération. Et pour ce faire maintenant, c'est l'État du Sénégal est en train vraiment de s'engager. C'est le pays même pilote ou bien pionnier des applications rurales décentralisées. Je crois qu'à la fin de cette année, d'après les chiffres que nous avons, le Sénégal aura un parc de 750 mini-réseaux. Cependant, c'est bien beau, les mini-réseaux qui arrivent, mais la plupart de ces mini-réseaux sont libérés ou bien sont réalisés sous forme de crédits, crédit IPEX, importation. Ne serait-ce que le dernier projet, ce sont les Allemands qui sont en train d'installer 300 mini-centrales réseau, mais sous forme de crédit que l'État du Sénégal doit rembourser. Donc, un crédit export veut dire quoi? 80% de la marchandise doit venir du pays qui a accordé donc le crédit. Et c'est en général leurs sociétés qui font donc l'assemblage et on livre sous forme de conteneurs au niveau du Sénégal. Maintenant, moi, si on va accélérer l'éducation rurale, surtout avec les mini-réseaux, je crois que l'État devait quand même essayer de mettre un point sur le contenu local.
C'est-à-dire?
Il nous faut des champions locaux qui, en dehors de ces grands intervenants, de les permettre quand même d'être des exploitants dans les zones les plus reculées.
Mais ont-ils suffisamment justement les moyens de le faire, ces entreprises locales?
Les moyens de le faire, c'est clair. L'État va demander des subventions ou bien des crédits au niveau des pays développés. Ce sont des crédits que le peuple va rembourser. Mais dès lors que maintenant le fournisseur ou bien le pays il n'a qu'à fournir les installations, puisque tout. Et puis nous sommes là pour la sous-traitance.
Mais justement, ça pose également, disons, le problème de la compétence ou même est-ce que ces structures locales dont vous défendez ont les moyens qu'il faut pour véritablement assurer cela, sachant que...
Quels sont les moyens, techniques ou financiers?
Techniques et humaines, financières à la fois.
Technique, moi je dirais techniquement, on est tous branchés. Nous tous, nous sommes des grandes écoles. Moi, personnellement, j'ai fait mes études à l'Université technique de Berlin. Donc, dans une zone renouvelable, on est assez ici des gars qui ont les compétences. Puisque, regardez, si les conteneurs ou bien les solutions arrivent, la plupart, les sociétés installées, ils le sous-traitent aux Sénégalais. Donc, ce sont les Sénégalais qui font le boulot. Ils sont juste des sous-traitants. Et maintenant, vu que donc, les gars ils ont les compétences techniques, et nous, si nous allons dans la banque en tant que secteur privé, on demande chaque fois les historiques. Un historique, moi, je ne peux pas aller avoir des milliards pour investir. Non, c'est l'État qui doit nous accompagner petit à petit, à nous adosser avec ces gens, pour qu'on finisse, qu'on devienne vraiment des gars opérationnels et on a le fast track. Je crois que c'est la solution.
À ce niveau, on a l'impression, quand on vous écoute, que l'État traîne les pieds.
Non, l'État ne traîne pas, mais ils n'ont pas eu cette vision des choses. Donc moi, c'est pourquoi donc, je fais appel à eux, pour les écouter, l'État, essayer de prôner des champions locaux. On peut les adosser à ces gens qui vont amener les équipements et tout, mais au finish également, leur donner la possibilité de devenir gros.
Voilà. Justement, on parle, M. Diop, hein, de l'État, mais aussi des partenaires techniques et financiers, alors que c'est une demande hein, sociale au niveau de ces zones rurales. Est-ce qu'il y a véritablement une prise en compte, disons, des préoccupations de ces populations ou même de leur implication dans ce processus, disons, de décentralisation de l'énergie renouvelable?
Merci encore. Peut-être renforcer un peu l'argumentaire par rapport à la durabilité et la formation des populations pour une appropriation de ces technologies. Oui. Et ça entre en droite ligne avec le renforcement des capacités. Donc pour dire que on a eu des initiatives qui ont été apportées sur la mise en place de certaines centrales au niveau de certaines localités et que pour la maintenance, la gestion de ces équipements, des fois ça peut faire défaut. Donc comment à travers le déploiement de ces projets impliquer davantage les acteurs au niveau local? Donc je pense que c'est un écosystème qui est d'envergure. Il y a les partenaires financiers, il y a les partenaires techniques, il y a les industriels, mais comment à travers la chaîne impliquer davantage les acteurs au niveau local, que ce soit les électriciens, que ce soit les micro-entreprises au niveau rural, mais aussi tous les acteurs qui, sur toute la ligne, seront des répondants à travers l'exercice. Donc, ce serait pertinent par rapport à cette vision holistique, de vraiment ne pas à la limite suivre les mêmes chemins qu'on a eu à travers le réseau, pour dire qu'à travers l'électrification rurale, on a l'opportunité de faire vraiment le virage à 90 degrés et de chercher vraiment comment dirais-je, la cible principale et de l'encadrer sur toute la ligne. D'où la nécessité dans le cadre de beaucoup de programmes, il y a une implication des acteurs au niveau local. Je donne juste les projets portés par certaines ONG comme Enda Energy, mais aussi comme l'Agence Sénégale d'éducation rurale, où dans la foulée de l'action, on essaie de recruter au niveau local des jeunes qui seront à la limite le bras moteur pour le déploiement, la maintenance de ces équipements. C'est ça l'esprit. Parce que c'est bien d'avoir des investissements au niveau international, mais on ne doit pas avoir le remède de faire des investissements au niveau opérationnel. Comment, à travers l'exercice, mettre en place une sorte de réceptacle en termes de formation et de profilage pour permettre au moins, une fois que le système est installé, d'avoir la mainmise au niveau local pour pérenniser ces installations.
Et cela permettra au moins l'entretien du matériel, mais également quand il y a des failles techniques là-dessus, ça permettrait justement à ces populations, à mon avis, de pouvoir régler le problème sans pour autant faire appel à l'expertise étrangère.
C'est ça. Comme on dit, c'est décentralisé. Ce serait qu'on décentralise sur le packaging. Ça veut dire qu'on décentralise les niveaux de compétences et de gestion pour permettre la création d'emplois verts, parce qu'on on le dit, les solutions d'énergie renouvelable sont considérées comme des solutions vertes qui permettent au moins sur une trajectoire propre en carbone.
Voilà, justement, ça rejoint même ma prochaine question. Pensez-vous véritablement, M. Ba, que les populations, en tout cas issues de ces zones rurales, sont assez formées, à votre avis, pour utiliser bénéfiquement, disons, les R&D et ainsi entreprendre ou en être, ou peut-être ou être en service plus haut?
La population elle-même, non. Mais par contre, le secteur privé sénégalais, oui. Le secteur privé sénégalais, qui sont basés dans les grandes villes, ils ont des fois des antennes dans les régions. Comme moi, j'exploite pour le compte de l'État 66 mini-centrales solaires. Mon bureau principal est à Dakar, mais nous avons des antennes à Bakel, Matam, partout. Et maintenant, à partir maintenant de la zone où nous sommes, par exemple au niveau de Bakel, on va se référer vers les centres de formation professionnelle. On prend les jeunes, on les capacite davantage, on leur donne des renforcements de capacité pour les embaucher. Ils sont capables de le faire.
Et cela fait partie de votre politique de recrutement, permettant justement à ces populations d'utiliser les énergies renouvelables, mais également d'y gagner aussi en même temps leur vie.
Exactement. Et l'État même l'a compris, je crois, entre-temps, ils ont mis pas mal d'ISEP partout où nous partons. Donc, un opérateur qui intervient dans la zone de Bakel ou bien Tamba, il faut se référer à l'ISEP pour avoir un personnel qu'on peut qualifier encore davantage. Renforcement de capacité. À l'ESPE également, nous avons des ingénieurs, des gars quand même. Si on leur force un tout petit peu sur la matière, ils sont compétents de le faire. Donc, c'est juste essayer de prôner les opérateurs locaux. On a toute la matière ici, le financement de l'État peut s'organiser, ou bien nous-mêmes, secteur privé des FA, on peut accompagner l'État à trouver les fonds.
Oui, c'est cela. C'est ça. Alors, on voit nettement, en tout cas dans l'étude qui a été faite par l'Alliance pour l'électrification rurale, et Konrad Adenauer Stifting, on voit en tout cas dans cette étude qu'il y a énormément de travail qui a été fait par ces deux structures. Nous constatons qu'environ 1500 personnes sont engagées dans le secteur de l'RD, dont 23% de femmes et 10% des personnes âgées de moins de 25 ans au Sénégal en tout cas. Avez-vous, M. Diop, mis en place par exemple, ou alors vous prenez plutôt une mise en place des politiques de genre afin que les femmes s'intéressent dans ce domaine au même titre que les hommes, parce que très souvent le constat c'est que, tellement vrai, déjà notre plateau l'explique, nous n'avons pas de femmes dedans. Donc est-ce que vous pensez, disons, à impliquer davantage les femmes pour que tout le monde puisse se sentir vraiment concerné?
Merci. Par rapport à l'inclusion sociale, parce que la prise en compte des femmes et des jeunes constitue un levier moteur pour le développement local durable, parce que comme vous le constatez, dans ces zones en majorité, les hommes ont trouvé d'autres voies, soit c'est l'immigration, soit c'est l'exode dans certains centres urbains, et que les femmes restent au cœur de ce système. Donc ce serait pertinent, dans la foulée, de vraiment mettre en place des mécanismes d'inclusion et de prise en charge des besoins des femmes et des jeunes en termes de création d'emplois, d'activités génératrices de revenus, mais aussi de formation. Donc il ne faut pas avoir à l'esprit que dans le cadre de l'exercice, on doit juste former les hommes et les femmes sont restées en rade. Donc comment à travers l'exercice mutualiser davantage? Et je pense que beaucoup d'initiatives au niveau sous-régional ont été mises en exergue à travers ECRE, qui est le Centre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEAO, qui a développé ce qu'on appelle écogène, c'est-à-dire c'est un plan d'action genre au niveau régional. Et que ce plan d'action a été approprié dans chaque pays à travers de politiques genre et inclusion sociale. Et que le Sénégal a eu à faire des initiatives et que dans pas mal de structures, il y a des comités genre et énergie pour vraiment prendre en compte l'inclusion et la prise en compte des besoins des jeunes et des femmes dans le développement de ces énergies renouvelables. Que ce soit en termes de besoins énergétiques, mais aussi en termes de besoins de formation et d'appropriation des technologies. Mm-hmm. Que ce soit au niveau cuisson, qu'au niveau de l'éclairage et dans plusieurs sortes de panoplies de technologies qui permettent un peu de changer la donne et de faciliter l'accès à l'électrification dans ces zones-là.
Mais concrètement, est-ce que vous avez un chiffre permettant d'avoir une idée justement de l'implication des femmes ou alors même des filles dans ce secteur d'activité?
Bon, dans le cadre de l'étude sur les 1500 personnes qui sont engagées par rapport au secteur des ARD, on a constaté que 23% de femmes et 10% de personnes âgées qui sont dans l'intervalle de 25 ans à la limite. Donc, pour vous dire que le ratio est déjà là, mais comment amplifier davantage en termes d'implication? Parce que si on voit qu'au niveau national, en termes d'équité, on voit que les derniers recensements de l'ANSD donnent un certain équilibre entre les hommes et la femme. Donc, comment, à travers l'exercice, trouver tous les vecteurs ou bien les approches qui permettent d'amplifier l'implication des jeunes et des femmes dans le domaine des secteurs des renouvelables? C'est dans cette perspective-là qu'il faut le voir.
Merci aux auditeurs de la RFM. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Rendez-vous est donné très prochainement pour une autre émission concernant, bien entendu, l'électrification rurale. Ciao.
Merci. RFM.
Radio Futur Média.
94 FM.
Dakar.